Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Comme vous pouvez l'entendre, cet épisode n'a pas été enregistré dans les conditions habituelles puisque nous l'avons enregistré en live sur Twitch. Et oui, nous faisons face à la situation actuelle et donc on a essayé de trouver d'autres moyens de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour vulgariser différents sujets, potentiellement recevoir des invités et puis vous partager de nouvelles choses en même temps et partager un bon moment. C'est plutôt sympa, donc on vous encourage à nous suivre sur Twitch parce que les personnes qui nous suivent sur Twitch peuvent poser des questions en direct sur le chat, comme vous pourrez l'entendre dans l'épisode qui vient. Et en parlant de ça, je vous souhaite une bonne écoute.
Qu'est-ce que c'est ce machin ?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
On peut m'applaudir, s'il vous plaît. Oh. Merci.
Bravo. Donc, nous disions bonjour et bienvenue. C'est là que vous la connaissez. Et donc, notre super invité, Axel. Axel, peux-tu te présenter pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, elles sont vraiment très peu nombreuses. Donc, je suis, comment on va dire ? Eh bien, écoutez, je travaille dans un château de l'Ouest parisien qui accueillera bientôt avec. Je suis très heureux de pouvoir assister aux Jeux Olympiques qui accueillera les épreuves d'équitation. J'ai travaillé avec une des personnes qui est dans cet épisode. Je ne vous dirai pas laquelle, vous devinerez vous-même. Ensuite, j'ai découvert un sport, donc je vais vous parler quelques minutes. Et je suis président de l'immense Fédération française de ce sport que je vous présenterai tout à l'heure.
Bravo. Alors là, c'est parfait.
J'ai envie d'applaudir tout le monde aujourd'hui.
C'est une présentation très très claire, n'empêche, c'est très fort. Ça me met un peu la pression pour la suite, sachant que je viens de réaliser que je n'ai pas sorti mes notes, mais...
Écoute, Ilias, moi en tout cas, j'ai écouté soigneusement les dernières choses que tu as faites, j'ai été extrêmement impressionné par la qualité de tes propos, et j'espère qu'aujourd'hui, je ne serai pas déçu et que je serai encore une nouvelle fois surpris par ce que tu vas nous
raconter. Oh mon Dieu.
Tu ne chercherais pas une place de chroniqueur, toi, par hasard.
écoutez.
À Versailles, là,
je trouve franchement qu'il y a, il manque une personne dans votre groupe. C'est quelqu'un mûr, voire vieux, et qui
avec
pourrait apporter une vision.
Moi, monsieur.
Voilà, et je pense que. En EHPAD, il y a un gros potentiel de gens qui pourraient écouter Pardon Maman.
Et surtout que maintenant qu'ils vont mieux avec la vaccination, oui, il faut bien qu'ils fassent des choses, comme par exemple nous écouter.
Oui, et si on fait un peu de prospective, ceux de l'EHPAD, ce sont les seuls survivants après le Covid.
C'est vrai.
Ce sont les seuls vaccinés.
C'est vrai. Bon, évitons de dramatiser, ceci dit, parce que s'il faut repeupler la Terre, c'est pas gagné. Hein. Mais bon, ça fait très plaisir de vous retrouver. Oui, malheureusement, le contexte est un peu compliqué, mais on s'est dit que justement, se retrouver pour un petit épisode de vulgarisation, raconter 2-3 bêtises et voir 2-3 bêtises aussi, ça pourrait être sympa. On vous remercie beaucoup d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous ont suivis sur Twitch, envoyé des encouragements, etc. Ça nous motive bien. Bon, encore quelques petits paramètres techniques à gérer, mais on va y arriver petit à petit. On explore. Et puis, cet épisode sera aussi disponible en podcast, chose que vous savez déjà si vous nous écoutez en podcast, en l'occurrence.
Avec un bel écho au début.
Voilà, mais on le supprimera ou je
mettrai un disclaimer au début sur le pardon pour les oreilles.
Super, super.
Sinon, on refait la discussion.
Bonjour et bienvenue. mais du coup, de quoi on va parler aujourd'hui ? Mais du coup, c'est moi qui vais commencer.
C'est toi qui vas commencer, patron.
Exactement. Moi, je vais vous parler d'une expérience éthologique, donc en gros comportement des animaux, parce que je cherchais une petite expérience sociale, sociaux, un petit peu sympathique, et j'aime bien quand ça implique des animaux pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Et puis aussi, oui, non, pas comme ça. Mais on va dire faire des tests qu'on ne pourrait pas faire avec des humains parce que ça serait un peu cruel. C'est déjà cruel avec des animaux, merde. Ça commence mal comme présentation. Ça devrait être intéressant. C'est sur. Je peux vous pré-spoiler, mais sur ce qu'on a appelé l'univers 25 en particulier, et plus précisément ce qu'on a appelé le cloaque comportemental. Voilà, une expérience qui implique des rats et du sang.
Okay.
Voilà.
Sympa.
Après,
c'est... Oui. Ouais, beau programme.
Après, ce sera au tour d'Axel.
De quoi tu veux nous parler, mon cher Axel ?
Eh bien, je vais vous parler de ce fabuleux sport et de cette fabuleuse fédération que je préside, mais je vous parlerai du sport tout à l'heure et je vous donnerai le nom tout à l'heure. Comme ça, tout le monde pourra aller faire péter tous les sites, et notamment celui de la fédération, pour pouvoir se documenter sur ce sport.
Axel, on a un petit frottement de micro sur ton couche de chemise, je pense. C'est parfait.
Merci.
Tu es incroyable.
On
nous demandait deux, trois petites choses, à savoir est-ce qu'Axel c'était le père d'Ilias. Je te laisse répondre, Axel.
Eh bien, non.
Voilà.
Oui, ça se voit que c'est déjà...
Je ne vois pas pourquoi on dit ça. Est-ce que la personne en question pourrait éventuellement justifier.
Avec thèse, antithèse, synthèse, on récupère la copie dans 10 minutes.
Non, mais faisons simple, je pense que c'est juste parce que tu es beau, voilà tout. Voilà, c'était un rendu pour tout à l'heure. Et ensuite, on va finir avec un petit jeu de Ichouchou.
Oui, moi, je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis très, 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 très longtemps. C'est un quiz.
L'amour.
Bah non, ça fait longtemps que j'ai pas aussi. aussi.
Yes.
Mais.
On n'aurait pas osé.
Non, moi, je vais vous parler de langue étrangère. Voilà.
Ah, bah, ça marche aussi, hein, même. Mais... top, quoi, on a hâte.
Mais donc, voilà. Bref.
Eh ben. Ne commencerait-on pas avec cet univers 25?
Attends, bah, juste le temps que je trouve le jingle et puis on sera bon.
Oh, regarde! Des rats!
Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique.
Ah, ça, c'est des pigeons, ça.
Donc, moi, je vais vous parler de petites expériences. Je vais commencer par une petite question. Bon, rapide, hein, bien évidemment, pas thèse, antithèse, synthèse. Mais comment vous décririez le paradis sur Terre pour vous, avec deux, trois éléments, pas plus?
Le paradis sur Terre?
Ouais.
Eh bien, moi, je pense... Déjà, je pense qu'il faudra absolument le jeu et le sport dont je vais vous parler tout à l'heure.
Réouvrir les terrasses.
Une troisième proposition peut-être par Camille. Donc là, on a le sport, les terrasses et Camille, peut-être un truc.
Le tout en Franche-Comté.
Donc le paradis, c'est plat, vert, avec très peu d'activité.
C'est déjà pas mal. Et comment vous décririez l'enfer sur Terre?
Plat, vert, avec très peu d'activité.
La prof de philo que j'avais au lycée, je pense.
La préfecture.
Ah, moi, j'allais dire la ville de Marseille. Ouais.
Ok, bon, bah, je pensais que vous auriez des propositions plus proches, mais bon, allons-y. Non, moi, j'ai plutôt vous parler de plutôt vrai enfer et vrai paradis sur Terre pour les populations notamment. Par exemple, qu'est-ce qui va causer le déclin d'une population? Qu'est-ce qui fait qu'elle va se développer? Qu'est-ce qui fait qu'elle va décliner? Et chose intéressante, c'est que parfois, ce qu'on peut prendre pour le paradis, ça peut être plus proche de l'enfer que ce qu'on ne croit. Ça peut se jouer à des très petites choses, on va le voir. Et aussi, une des conclusions intéressantes qu'on peut voir à cette expérience que je vais vous décrire, c'est que en fait, le fait de comprendre nos besoins, nos réels besoins, ça peut nous donner des meilleures chances de survie, parce que si on analyse, si on comprend mal de quoi on a besoin, on peut se mettre dans une merde noire. Donc, on va voir ça. Donc, je vais vous parler d'un cher monsieur qui s'appelle John Calhoun. C'est un chercheur du milieu du XXe siècle. Il était donc éthologue, donc il étudiait le comportement des animaux et je me suis dit que bon, j'aurais dû faire ça parce que ça a l'air quand même plutôt cool comme métier. Il a fait notamment plusieurs expériences à mener sur des souris et des rats. Donc, bon, spoiler, ça se passe pas très très bien. Et je vais en plus particulièrement vous parler d'exploration qu'a fait Calhoun pour explorer une des hypothèses soulevées par Thomas Malthus. Bon, Thomas Malthus. Avec un accent approximatif. Ouais. Non, en fait, c'était Malthus, je vais prononcer à la française. Donc, Malthus, c'était un économiste et un prêtre. Pourquoi pas? Je ne savais pas que ça se faisait en double spécialisation, mais pourquoi pas? Et donc, c'était un économiste, on va plutôt parler du côté économiste, bien sûr, mais donc fin 18e, début 19e, en fait, c'est beaucoup intéressé au développement des populations, et notamment à cette époque-là, à travers du prisme de l'industrialisation naissante et des effets que ça peut avoir sur la population. Et lui, il a une vision qui est plutôt pessimiste, peut-être pas ce qu'il aurait dit lui, mais personnellement, je trouve ça un peu pessimiste. Et il va défendre un contrôle de la population en limitant la natalité. Parce qu'en fait, il a vu l'essor de l'industrialisation qui était une surcroissance. Et donc, pour lui, il faut contrôler la natalité, sinon on va imploser. Et l'hypothèse pardon, que Callahan veut explorer, c'est que, selon Malthus, les limites à la croissance de la population sont la misère et le vice. Intéressant. Donc, l'expérience dont on va parler, en fait, donc, c'était des rats qui ont été mis dans un environnement contrôlé, donc pourquoi, enfin, pour voir comment ils allaient se développer, et pourquoi l'environnement était contrôlé, mais en fait, c'était pour pouvoir supprimer la misère. Enfin, ce qu'on
qu'est-ce que tu entends par un environnement contrôlé ? Ils sont en captivité, en fait.
Oui, c'est ça. En captivité, ouais. Surtout, okay. Notamment fixer tous les paramètres, la température, la nourriture, etc. Donc, je vous détaillerai. Mais voilà, on a voulu faire ça justement pour pouvoir dire, OK, si on règle ces paramètres-là, on considère que la misère a été enlevée de l'équation. On va voir que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais voilà, c'était pour essayer de tester cette hypothèse. Et les questions qui s'est posées, effectivement, c'est comment l'univers va se développer une fois qu'il a été délivré de la misère ? Est-ce que ça va croître comme ce n'est pas possible ? Est-ce qu'il va y avoir un point de rupture ? Une stabilisation, on ne sait pas. L'environnement, donc l'environnement décrit, c'est un espace fermé, donc une boîte sans couvercle, environ 2 à 4 mètres de côté, suivant les expériences. Ces espaces et les univers qui ont été liés, ça a été appelé à l'époque des univers, c'est pour ça qu'on parle d'univers 25, puisque nous, on va s'intéresser plus particulièrement à la dernière de ces expériences, qui est la 25e. Univers 25, donc, l'environnement, c'est une boîte sans couvercle de 2,7 mètres de côté, des parois de 1,5 mètre de haut. Elles sont escaladables sur la majeure partie, mais impraticables sur la dernière, pour éviter les évasions, bien sûr. Puis quand même se balader, mais pas se faire la malle. Il y avait des petits espaces couchettes donc sur toute cette boîte, donc 256 abris, pouvant contenir jusqu'à 15 rats, donc une capacité totale de...
256 x 15. C'est...
Oui, oh, pile poil, ouais. Vraiment, tu l'as. Donc ça fait 3840.
C'était un village vacances pour rats, mais sans la piscine, quoi.
Bah, c'est ça. Et mine de rien, en fait, ouais, 3840 individus, en capacité, ça fait beaucoup. Sur un cube de 2,7 mètres carrés, une surface de 2,7 mètres carrés, 3840 rats, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc, dans cet univers contrôlé, on a mis nourriture et eau illimitée, aucun prédateur, température contrôlée, cage nettoyée toutes les 4 semaines.
Ouais, ce serait un peu bâtard de mettre un chat dans le...
Allez.
À deux doigts d'inventer les kaijus.
Bah, ceci dit, si tu mets 3000 rats et un chat, moi je donne pas cher du chat.
Oui, hein. C'est vrai, oui.
Oui, je pense que oui.
Mais c'était pas du tout le but de l'expérience. On va pas aller dans la cruauté la plus totale, même si là, c'est pas de l'infini pour autant. Donc voilà, la cage était nettoyée, il y avait de la bouffe, tout. Cet univers, cet environnement, il a été qualifié de paradis des rats par les scientifiques de l'époque. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Pour l'univers 25, il y avait 8 rats qui ont été placés au début, donc 4 mâles et 4 femelles, et ils ont été choisis très soigneusement pour avoir un patrimoine génétique résistant, donc ils ne sont pas mis des rats boiteux qui allaient crever 2 secondes après. Non, c'est plutôt de la belle sélection. Et c'est un petit spoiler, mais bon, cette expérience plus tard, donc on l'a appelé univers 25 parce que c'est le 25e univers, mais ça a aussi pris le nom, ça a décrit un comportement qu'on a appelé cloaque comportementale. Qui est la traduction française de Behavior Sync, ce qui n'est pas prometteur de ouf. Hein, pour la suite, je ne vous cache pas que cette appellation elle est venue qu'après, mais j'imagine que vous dites que ça ne va pas très bien se passer.
On dit cloaque ou couac comme un canard ?
Loaque.
Loaque, ok. Donc
moi, j'avais une question. Quand tu parlais du patrimoine génétique qui était de qualité, ce qui veut dire que les chercheurs connaissaient le papa, la maman, les grands-parents ?
Ouais. Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, ils sont issus, alors je n'ai plus le nom, mais d'un laboratoire qui est vraiment connu pour la sélection génétique des rats. Donc, ils connaissaient très bien les ascendances, les paramètres, s'ils étaient sensibles à la maladie, à la dépression, ce genre de choses. Donc vraiment, ces rats ont été sélectionnés très précautionneusement parmi des milliers et des milliers de rats. Donc, et vous allez voir qu'à partir de ces 8 rats, y a un petit... je dirais pas que ça boucle, mais ça va ken, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, déroulement de l'expérience. J'ai personnellement donné des petits noms à ces phases. C'est pas les noms officiels, mais c'est pour histoire de s'y retrouver un petit peu mieux. Donc, pour la première phase, c'est la phase de croissance, où on est toujours plus ou moins dans un paradis. Donc, petite période d'adaptation de quelques mois où la population va croître très doucement. Et après, une période... d'adaptation, ils vont s'habituer à leur environnement, etc. Donc après quelques mois, la population va doubler tous les 2 mois. autant dire que ça va aller plutôt vite, parce qu'on peut se dire qu'à partir de 8, bon voilà, mais doubler tous les deux mois, ça monte très très vite, très très haut. Ensuite, bah, suite à ce début de forte croissance, bah, on arrive à une surcroissance, voire à une hyper-croissance, une ultra-croissance, moi j'arrête. Surcroissance que personnellement, j'ai sous-titré l'anarchie. Donc, surpopulation et surproximité, bah, en fait, ça va bouleverser les rôles habituels des rats, je vais dire des chats, pas du tout, des rats. Des rats parce que bah, les rats, ils ont aussi un système, bon, je ne sais pas si vous connaissez bien le fonctionnement des rats, mais ils ont un système de société qui est assez élaboré. En fait, quels que soient les groupes de rats qu'on va mettre, ils vont très souvent s'organiser de la même façon, avec une même proportion de dominants, de dominés, de collecteurs, de ce genre de choses. Donc voilà, la disposition, mais l'organisation sociétale des rats est assez importante. Sauf que, bah, en fait, surpopulation et surproximité, ça va totalement dérégler tout ça. De plus, chose qui était, en tout cas, personnellement, c'était plutôt contre-intuitif, hein, je ne me serais pas douté de ça, nourriture illimitée, donc bah, en fait, pas de ressources à récolter ou à défendre, pas de prédateurs, donc pas d'ennemis communs. Donc, en fait, ce qui était vu comme des points positifs, ça a été des points négatifs, parce qu'il y a une forte importance des rôles dans la société des rats, donc mâle dominant, reproducteur, nourricier, etc. Et en fait, vu qu'il y avait bah, moins de dangers et bah, moins de choses à protéger, puisque tout était illimité, bah, il y avait aussi moins de rôles à distribuer. Donc, moins de rôles à distribuer. Donc, les rats étaient désœuvrés. Ils ne savaient pas quoi foutre. Ils étaient un peu désorientés.
Ils avaient des métiers non essentiels.
C'est un peu ça. Mais j'espère qu'on ne va pas finir pareil parce que tu vois, vraiment, c'est pas fou. Donc, il y en a qui œuvraient, enfin, qui erraient un petit peu désœuvrés. Et ceux qui avaient un rôle, par exemple, ceux qui étaient les rares qui étaient restants dominants, mais en fait, ils n'ont pas réussi à garder ce rôle-là parce qu'il y avait trop de pression. Parce que plutôt que de protéger leur petit groupe face à quelques individus, en fait, ils avaient des centaines de rats autour d'eux et ça leur a fait péter une durite parce qu'il y avait trop de pression par rapport à ce qu'ils étaient capables d'encaisser. Donc, ils ont fait un burn-out, globalement. Ouais, c'est pas facile.
Alors, je me permets de dire que je vois dans le chat que Nanolin propose qu'on crée un pôle emploi des rats.
Mais non, c'est un merdier après ça. C'est le problème. T'as la mutuelle des rats. C'est chiant.
Imagine, la mutuelle des rats, c'est galère ça.
Bah oui.
Et la retraite
des rats auto-entrepreneurs. Oui,
les rats intermittents du faire spectacle, oh là là.
Alors, vous rigolez, mais des rats intermittents du spectacle, ça aurait pu beaucoup changer les choses.
Ah, parce qu'ils pouvaient pas avoir accès à la culture.
Et bah, blague à part, c'est une de mes critiques personnelles, mais vous verrez. Donc, troisième phase, pardon, celle qui a été appelée par Calhoun la première mort, donc la mort sociale ou sociétale. Bah, en fait, les mâles sont désœuvrés, donc pas de rôle à prendre, ils ne savent pas quoi faire, etc. Sauf que bah, sans mâles pour les protéger, et avec une augmentation de l'agressivité dans l'univers dans lequel ils sont, les femelles elles vont tenter de survivre par elles-mêmes, et bah, en fait, elles sont tellement accaparées par leur propre survie pardon, qu'elles vont bah, aussi beaucoup, enfin, elles vont de plus en plus délaisser leurs petits. Donc elles vont changer d'abri beaucoup plus régulièrement que d'habitude, sauf qu'au passage, elles vont parfois oublier leurs petits, ou oublier de les nourrir, ou des choses comme ça. Donc, bah, c'est une déstabilisation de la société qui commence à être de plus en plus importante.
Et tout heureusement que ça, enfin, ça arrive pas souvent dans la vie. Genre que tu oublies ton fils quand tu déménages. Tu vois, c'est assez rare et c'est quand même pas mal.
Oui, tout à fait. Alors oui, mais... J'étais bah, aux États-Unis il n'y a pas très longtemps et j'ai vu dans une voiture qu'en fait, il y avait, quand tu quittais ta voiture, il y a l'ordinateur de bord qui te dit « Oh, vérifiez que vous n'avez pas laissé des enfants dans la voiture. »
Mais non.
Je vous jure que c'est pas. En été ou quand il fait chaud, truc comme ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver, tu as 12 gamins à t'occuper. Bon, ça vaut le coup de vérifier deux fois quand même. Ouais, mais non, mais même si tu en as deux et que tu as 12 000 choses à faire.
Quand on a une grande voiture.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en fait,
est-ce que tu achètes une grande voiture pour mettre 12 gamins ou est-ce que tu fais 12 gamins pour pouvoir avoir une raison d'acheter une grande voiture?
Ou peut-être qu'il y a plus de gamins dans le coffre.
Parlons des vrais problèmes.
Alors oui, je pense que
et
la voiture.
Et peut-être qu'ils ne sont pas tous vivants.
C'est ce que je veux dire. Je pense que la voiture a l'air plutôt sur les enfants vivants. Mais bon, on ne se laisse pas déstabiliser. Première mort, donc la mort sociale, sociétale. Tous les rôles sont pétés. Les mâles, ils commencent à se fighter parce qu'ils bah, n'ont plus rien à foutre. Plutôt que de défendre leur groupe, ils se battent sans raison. Et les femelles, bah, elles se barrent parce que tout le monde se bat. Donc, elles n'ont pas envie de faire ça. Et bah, elles délaissent un petit peu leurs enfants. Elles les nourrissent moins. Elles sont moins enclines à s'accoupler, etc. Donc, ça commence à puer un peu du luxe, si je peux me permettre. Phase suivante, celle que j'ai appelée le chaos, et honnêtement, c'est pas volé. Dans cette phase, en fait, on va identifier trois groupes majeurs. C'est pas les seuls, mais c'est vraiment ceux qui ont été le plus étudiés. Donc, les mâles ultra-agressifs, eux, ils vont être au centre et ils vont principalement se masser autour d'une seule source d'alimentation, comme s'il n'y en avait pas de deuxième. C'est vraiment qu'ils avaient juste envie de se battre, quoi. C'est pas qu'ils veulent défendre la bouffe, parce que de la bouffe, il y en a en illimité juste à côté. C'est juste qu'ils veulent se fighter. Et en fait, ils s'agressent les uns les autres sans raison apparente. Et ça va même aller jusqu'à des cas de cannibalisme, alors qu'il y a de la nourriture illimitée. Mmh. Donc en fait, ils pètent un câble, quoi.
Tout ce que tu racontes, on dirait un épisode de télé-réalité qui tourne hyper mal, en fait, au bout d'un moment, quoi.
Oui, mais c'est ça qui est flippant.
Est-ce qu'ils n'auraient pas récupéré les procédures d'expérience pour produire ce genre d'émission ? C'est pas impossible.
Alors, une des mises en garde que je n'ai pas faite au début, mais c'est effectivement c'est une expérience qui est éthologique, donc sur le comportement des animaux, l'anthropomorphie, c'est ça, non ? Bah, bref, le fait de calquer cette expérience sur des comportements humains, c'est une tentation qui est très forte, mais en fait, on ne peut pas pour autant l'appliquer tel quel au comportement humain. Donc même si ça fait peur, bon, on réagit quand même pas tout à fait pareil, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant de ouf. Donc on a donc les mâles ultra-agressifs, je ne me laisse pas déceler. Donc eux, ils se fight, ils se bouffent la gueule, ils s'arrachent des pattes, genre vraiment, c'est violent, quoi. C'est pour ça que je dis, il y a du sang, l'univers doit être dégueulasse au centre. Ensuite, on a les femelles qui essayent de survivre. Alors elles restent sur les côtés, elles se barrent de nid en nid, elles escaladent, elles se barrent, elles sont genre, oh là, c'est le bordel. Déjà, ils essaient de rester en vie, puis quand il y a un mâle qui essaie de s'accoupler, genre, non, tu vois pas que c'est le bordel, là, c'est
tu baiseras plus tard.
Ouais, elle fait non, mais vraiment, je crois que c'est pas le moment. On va espérer qu'il se calme, et puis peut-être après, on peut la comprendre, quoi. Et puis en plus, si c'est pour qu'il se barre après pour se barrer, faire le Fight Club, non. Ah, mais on a dit qu'on parlait pas de ça. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui est rigolo parce qu'il a été appelé les beaux, comme des gens qui sont beaux. Parce qu'en fait, c'est des rats qui, eux, ils vont totalement s'isoler. Ils se foutent de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est un peu comme si leur cerveau avait fondu. Ils vont s'occuper de rien, juste dormir, se nourrir et se laver le poil. Donc en fait, on les différenciait des autres parce qu'ils avaient le poil très soyeux, très brillant, etc. Mais ils ne font rien d'autre que bouffer, dormir, se laver. Alors, je crois que tu es silencieux, Axel.
Tu es en train de décrire les hommes politiques.
Bah, c'est un peu ça. Hein. Ils sont en dehors de la bastion, ils sont tout propres.
Oui. Ça marche aussi.
Donc ça, c'est les trois groupes majeurs, et bien évidemment, il y en a d'autres. Il y avait certainement un ou deux jongleurs dans le tas que l'histoire ne relate pas, mais ce sont les principaux.
Est-ce que tu t'es identifié à un groupe ?
Comment ?
Est-ce que tu t'es identifié à un groupe ? Tu serais dans lequel ?
Moi, je pense que je serais genre dans un des quatrième ou cinquième groupes, genre ceux qui essayent de se barrer pour ne pas se faire bouffer, parce que déjà, je n'irai pas au centre, je n'ai pas envie de me faire défoncer pour rien.
Et tes collègues de Pardon Maman, tu les mettrais dans quel groupe ?
Ah bah, Hicham, je sais qu'il irait à la baston. Ah, il aime tellement la bataille.
Hicham, c'est lui qui va manger les pâtes.
J'ai c'est la pour plaisir.
Bien évidemment. Et donc, dans ce chaos, comme je vous le disais, les femelles, en fait, elles vont être moins enclines à s'accoupler. Elles vont être en ultra danger. Donc, quand il y a une progéniture, leur progéniture a beaucoup moins de chances de survie. Donc en fait, ça veut dire fertilité minimale et mortalité infantile maximale. Ça, à quoi ça mène ?
Il y a de moins en moins de monde, quoi, finalement.
Bah oui, mais ça ne devrait pas arriver dans une population normale, parce qu'une population normale est censée croître. En fait, si elle décroît, c'est que c'est le début de la chute. Et effectivement, au jour 600, donc à un peu moins de 2 ans, l'univers va atteindre sa population maximale, soit, vous avez une idée,
maximal, c'est de l'autre côté.
Maximal.
Attends, à la base, ils étaient 8, c'est ça hein ?
Et c'est après 600 jours.
Après 600 jours ? Je sais pas, je dirais.
Allez, 32.
Je dirais une centaine. Entre 100 et 200, quoi.
Ah ouais.
Vous êtes trop méchants. Juste avant, j'ai dit qu'il doublait tous les 2 mois, vous n'écoutez pas. Non, ils sont 2200.
Sur la boîte qui faisait 2 mètres 7 par 1 mètre 4, ça se marche sur la gueule. Ah, d'accord.
Ouais, mais il y a des étages. Donc...
Ah, bah alors tout va bien s'il y a des étages.
Mais Mais 2200, c'est effectivement beaucoup.
C'est énorme.
Ouais, c'est vrai, ils sont 100% en plus. Et donc, comme je disais, au jour 600, c'est le maximum. Donc, 2200, c'est-à-dire qu'à partir de là, la population n'ira jamais au-dessus de 2200. Et on peut se demander, est-ce que ça va redescendre pour se stabiliser? Est-ce que ça va faire des loopings? On ne sait pas. Et bien, si, on sait, en fait, parce que on serait tenté de penser qu'en fait ça va redescendre jusqu'à se calmer, mais pas du tout. Ça va être une chute très brutale et sans fin de la population, parce qu'en fait les enfants ne parviennent pas à l'âge adulte et les adultes ne font plus d'enfants. Donc autant dire qu'en fait il n'y a pas de renouvellement de crasse.
C'est compliqué pour une croissance démographique, c'est mal barré.
Et niveau adoption, s'il n'y a pas de tunnel vers l'extérieur.
En fait, c'est ce que j'allais dire, pour adopter dans d'autres univers, c'est galère.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc après un peu plus de 2 ans, et ben c'est la fin de l'univers 25. Tout le monde est mort, youpi, et il y a vraiment aucun survivant et certainement, je pense, beaucoup, beaucoup de sang dans l'univers. Donc comme on disait tout à l'heure, petite conclusion. Déjà, c'est une expérience qui est toujours considérée comme valide parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été désavouées par la suite, comme l'expérience de 1000 grammes ou des choses comme ça. Donc celle-là, pour l'instant, elle tient encore le coup. Elle a été faite il n'y a pas si longtemps, mais elle tient encore le coup. Deuxièmement, en fait, ça a été réutilisé par la suite parce que ça reste encore juste des résultats scientifiques. En fait, ça ne veut rien dire de plus que ce qu'on y voit. On peut essayer d'y calquer des modèles, etc. Mais le réflexe anthropomorphique, il est tentant, mais ça ne peut pas fonctionner. Donc, tout ce qu'on peut faire, et ça a été testé sur des étudiants, par exemple, ça va être d'essayer de reproduire ça dans des conditions humaines, mais on peut pas dire que les humains vont se comporter pareil. Et Dieu merci, parce que sinon, on serait un petit peu dans la merde en ces temps de confinement. Voilà. Et il y a eu pas mal de bénéfices, notamment à cette étude, notamment côté urbanisme et sciences sociales, notamment pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour l'équilibre d'une société, parce que mine de rien, ils pensaient avoir créé un paradis des rats. Bon, en 600 jours, ça finit en bouche, quoi, donc c'est pas forcément ouf. Et on peut trouver pas mal de parallèles avec la situation actuelle. Et notamment, c'est une des critiques que je vois, c'est qu'on a considéré créer, et ça va être la fin de cette chronique, on a considéré créer un paradis des rats en disant ils ont bout illimité, eau illimitée, il y a la femme de ménage ou le rat de ménage qui passe, il y a la température qui est à 20 degrés constante. Devrait être content. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas d'intimité, pas de divertissement, pas d'apprentissage, entre guillemets. La curiosité n'était pas entretenue, alors que les rats, c'est des animaux qui sont plutôt intelligents et curieux. Donc en fait, ils ont tourné en rond, ils ont pété un câble.
Et c'est exactement ce qu'on vit actuellement.
Et c'est pour ça, quoi, le parallèle m'a fait un petit peu un peu tiquer. Mais ouais, c'est pour ça que c'est... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette notion intéressante, c'est que, en fait, ils se sont retrouvés désœuvrés par rapport à leur rôle qu'on a pu considérer comme inutile, en disant mais regardez, on vous file de la bouffe, vous n'avez plus besoin de protéger votre maison. En fait, ça fait partie des choses qui les maintenaient en vie. Et le fait de ne pas avoir de petites roues pour jouer ou de trucs à apprendre à découvrir, de petits coins, etc., ça les a butés. Et c'est pour ça que, micro-fierté, je dois vous l'avouer, en tout cas micro-contentement, mais ça me fait aussi plaisir de produire des épisodes de Pardon Maman en 7 ans, parce que on espère que ça va fournir un petit peu de divertissement d'autres personnes, et que c'est important.
Bravo, je mettrai pas le jingle de fin parce que ça va foirer, mais...
bien sûr. Et petite critique finale, c'est que dans tous les cas, il faut toujours critiquer une expérience, bien évidemment, c'est là pour ça. Et c'est que le postulat de départ, pour moi, il impliquait un biais forcément, parce qu'on a considéré que c'était un paradis, genre l'absence de prédateurs, ressources illimitées, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Non. Mais en tout cas, c'était au moins intéressant pour se rendre compte que ça ne suffit pas pour l'équilibre d'une société. Bravo. Ouais, ce sera tout pour moi, merci.
Est-ce qu'on peut peut-être remonter, il y a peut-être quelques questions sur ton sujet auxquelles tu peux répondre? Déjà sur la fin, on avait heureusement qu'on a Twitch, peut-être. Donc oui, en effet, ça revient à ce que tu disais. On va essayer de faire le max pour continuer un peu.
Blague à part, moi j'avoue, je consomme plus Twitch depuis ces derniers confinements, depuis les toutes dernières semaines, parce que ça donne une impression de l'insocial, de l'instantanéité.
Oui. Oh, il y a quelqu'un du Havre dans le chat. Ça vous parle?
Linda. Oui, il me semble que c'est en France.
Mais non, c'est une personne qui vient voir plusieurs fois déjà.
Mais oui,
plein de fois même.
Personnalité. Bon, je crois que tu as répondu à peu près à toutes les questions qu'il y avait dans le chat.
J'ai vu qu'il y avait Pomka qu'on avait reçu un épisode celui sur le graphisme il y a quelque temps. Donc, si tu es encore là, salut, bonjour.
On te fait un gros en l'air, un big up. Et bah, écoutez, merci bien. Du coup, je vous propose de passer au super sujet de Axel, si vous voulez bien. Après un petit jingle que nous n'entendons pas.
Donc, bien, je suis fier. J'espère que tu en es fier le temps que je le trouve. Vous en faites pas, je vais le trouver.
Ouais, bien sûr. On n'est pas inquiet.
Non, mais on a
le temps. C'est vrai que vous avez le temps.
Qu'est-ce que c'est bien.
Ouais, moi je trouve qu'on est.
Ouais, le rythme.
Non, mais Camille m'avait dit que.
Franchement, Samuel Etienne.
Apparemment, c'est parti. Tu joues pas au golf.
Ah, c'est pas pareil. Non, c'est très différent.
Tu dois faire, c'est pointer, bien viser et tirer.
Mais avec quoi t'es donné ?
Un sac poubelle.
Mais non, pas un sac poubelle. Sac à merde.
Waouh, c'était vraiment un super jingle.
Mais ça, mes oreilles se sont régalées.
Et bien, ce qui est bien tout à l'heure, c'est que comme moi j'avais Twitch, effectivement il y avait un gros écho, mais au moins j'entendais les jingles. Bon, effectivement, un décalage, mais bon.
Du coup, c'est à toi, Axel. Dis-nous, quel est ce sport mystérieux?
Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec un petit historique de ce sport. C'est qu'avec mes frères, qui doivent d'ailleurs nous écouter sûrement, on exploite un petit concept qu'on propose à des sociétés pour faire des after-work, pour faire des portes ouvertes. On propose ça à des collectivités, etc. Et c'est un jeu ludique, un mur digital, je ne vais pas vous en dire plus. Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, tout le monde peut jouer à égalité. C'est-à-dire que si vous êtes petit, vieux, grand, gros, etc., eh bien, vous avez à peu près les mêmes chances. En tout cas, vous pouvez jouer et ne pas être ridicule. Et dans notre activité, on cherchait une autre activité comme ça, toujours sur le même principe, non segmentante, qui permet à tout le monde de jouer sur un pied d'égalité. Et je découvre complètement par hasard sur Facebook. Et j'essaie de faire
ça fonctionne, un suspense,
s'il vous plaît, pour d'ouvrir vos yeux. Voilà.
Le football américain.
Et je découvre un sport, un jeu qui s'appelle le cornhole.
Oh, le cornhole, qu'est-ce que c'est ? Dis-nous en plus, bon. Axel.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est vraiment dégueulasse parce que vous jouez très, très mal la surprise, étant donné que vous saviez déjà. J'ai cru que vous pouviez être de meilleurs comédiens. Bon, le cornhole, en fait, l'histoire... Alors, je vais vous raconter une histoire, mais sachez que ce n'est pas la bonne. Ou plutôt, c'est peut-être la bonne, mais j'en suis pas sûr. Hein.
Et tu es allé sur les cafards.net apparemment.
Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Donc, a priori, le cornhole est né en Bavière au XIVe siècle. Alors, les Anglais vous diront que c'était chez eux, mais a priori, c'est en Bavière. Et c'était trois petits-enfants. Je crois qu'ils étaient trois à l'époque. Peut-être deux ou quatre, hein, j'en suis pas bien sûr, mais c'était un détail. Donc, ils jouaient sur le bord de la route à lancer des cailloux sur une planche. Et il y a un monsieur, un agriculteur du
coin. On sait s'amuser en Bavière quand même.
Le Bavarois est très rigolo, il est très fort. Hein.
Mais des cailloux, une planche, hein,
c'est bien connu. Et un agriculteur assez malin qui cultivait du maïs les regarde et, pour leur faire plaisir, leur met un trou sur la planche sur laquelle il jetait les cailloux. Et puis, quelques jours après, revient avec des petits pochons de maïs. Donc, il avait un pochon, c'est un mot que les vieux utilisent poche.
On connaît, on est drogués.
Ouais, bah, les jeunes, ils utilisent aussi, mais dans un autre milieu.
On fréquente des vieux.
Donc, dans ce pochon, il y a du maïs et on lançait ce maïs dans le trou. Alors, c'est l'origine. Ça disparaît pendant plusieurs siècles et puis ça réapparaît à la fin du 19e aux États-Unis. C'est un jeu qui s'appelait à l'époque le Fababaga. Alors, je vais vous donner l'autre nom, mais je n'arrive pas à le prononcer. Hein, pourtant,
qui fait un AVC.
Dès que j'ai su que... non, c'était vraiment... C'est le... Bon, je ne sais plus. Et le Machin Point, j'arrive pas à le prononcer. Voilà. Et en fait, ce jeu est... a végété pendant très longtemps. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des trous carrés. Il y a eu des planches avec plusieurs trous. Et il est réapparu il y a une trentaine d'années aux États-Unis, plutôt sur la côte nord-est. Et il est devenu extrêmement populaire et s'est répandu dans tous les États-Unis. Il y a environ actuellement plusieurs millions de joueurs qui pratiquent le cornhole, alors un peu comme notre pétanque, enfin proportionnellement à la population des États-Unis, et il y a 1 million de joueurs qui le pratiquent comme un, comme un sport d'une manière très, très régulière. C'est géré par trois ligues professionnelles, dont l'ACL, l'Association Cornhole League. Je sais, Camille, tu me dis souvent que j'ai un magnifique accent et que suis
bilingue.
Tu vois, full bilingue.
Je suis bilingue.
Parfait.
On tout comprend, c'est le principal.
Et voilà. Donc, ce jeu arrive là. Ça nous, je trouve ça sympa. J'en parle à un copain qui me dit c'est sympa. On discute et c'est vraiment une conversation de copains, comme on pourrait discuter, sauf qu'on était écouté par personne. On était juste trois. Et on se dit tiens, bah, on n'a qu'à organiser une manifestation, une petite compétition, et un peu pour animer la foire de Bozultétu. Sauf que là, c'était à Cluny. Et une des trois personnes dit, tiens, moi, je peux connaître quelqu'un qui est un joueur professionnel, enfin, qui connaît des joueurs professionnels. Je vais lui poser la question si, pour agrémenter cette compétition, il ne pourrait pas venir. Et une semaine après, je reçois un mail de l'American Cornhole League, qui me dit que c'est une très bonne idée de faire venir un joueur américain, qu'en fait, il me demande si j'accepterais éventuellement la présence d'une délégation américaine lors du concours qu'on n'avait pas encore organisé. Et on discutait à trois, je vous rappelle, c'était la foire de Bozultétu. Et pour finir, il me dit, et éventuellement, est-ce que vous accepteriez qu'on retransmette en direct les matchs?
Ah, mais c'était vous, la NBA.
Non.
D'accord.
L'histoire,
l'histoire, et là, on se dit, ouais. Ah oui. Bon, alors, donc, je commence à me renseigner un peu parce qu'il faut avancer. Donc, je vois qu'il y a, je vais pas le citer, mais il y avait un site qui s'occupait un petit peu du cornhole, mais a priori, ça bougeait pas beaucoup. Donc, néanmoins, je lui envoie un message en lui disant, où est-ce que je peux acheter du matériel et est-ce qu'il y a une fédération? Et ce monsieur qui a priori n'anime pas des bar mitzvah le week-end, me répond « Le matériel, c'est là, la fédération, c'est nous. »
Excellent slogan.
Donc, oui.
Il s'appelait…
Donc, je me suis dit « On va faire et on verra après. » Et donc, on crée la Fédération française de cornhole, toujours avec… Des copains qui j'ai demandé si je pouvais utiliser leur nom, en gros. Des joueurs se sont rajoutés à nous, donc ça a un peu grossi. Et puis, il y a une dynamique qui s'est faite autour de ce truc-là. Il y a des clubs et il faut savoir que le cornhole existait avant qu'on s'en occupe. Et là, c'est un truc qui va vous intéresser parce qu'il y a plein de gens qui jouent au cornhole tous les ans depuis quelques années. C'est tous ceux qui fréquentent le Paris Beer Festival. Est-ce que vous connaissez ça ?
J'ai entendu parler.
Ça existe.
Et oui. Le Paris Beer Festival, c'est un gros festival de bière et le cornhole a toujours été très lié à la bière. Je pense que quand on lance un sac, si on a une canette de bière dans la main gauche ou dans la main qui ne lance pas, ça rééquilibre vraiment bien les choses. Donc, on peut jouer au cornhole. Je vous encourage à aller parce que ce sont des brasseurs français qui brassent dans la région parisienne. Il y a la brasserie Outland qui est dans le 94. Il y a les Trois Yinches, il y a une troisième brasserie qui s'appelle Le Sport, voilà, je perdais son nom, et vous pouvez retrouver toutes ces bières et bien d'autres encore dans deux boutiques qui sont à Courbevoie et à Sèvres, qui s'appellent la Caisse à Bière, et tous ces gens-là sont très motivés par le sport, et bien sûr par la bière en premier, mais aussi par ce sport, le cornhole, et grâce à eux, et grâce à nous, enfin grâce à tout le monde, il y a une dynamique qui se crée. Et il y a quelques temps, il y a eu un tournoi européen qui s'est organisé. Donc, le tournoi européen, étant donné qu'il y a le Covid actuellement, donc on a fait un tournoi européen en ligne. C'est-à-dire que chacun…
C'est pratique pour
lancer ces trucs.
Mais justement, c'est ça qui est… Ne soyez pas moqueurs. Effectivement, le cornhole, ça se joue à deux ou par équipe de deux. Mais là, en fait, on fait une performance tout seul. C'est vrai que j'en viens à penser que je ne vous ai pas trop expliqué ce que c'était comme ça.
J'allais demander, est-ce que tu peux… moi, j'ai compris qu'il fallait lancer des petits sacs dans un trou.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes des règles
hyper technique. En vrai, Axel m'y a fait jouer deux fois. Une fois très furtivement, une fois un peu plus longuement. La première fois, il s'est avéré que j'étais pitoyable. La deuxième fois, il m'a montré un peu mieux les gestes, etc. Et il s'est avéré que j'étais vraiment exécrable. Et c'est hyper compliqué, mais c'est… C'est, je pense que vraiment, Axel, tu vas l'expliquer, c'est hyper technique. Ouais. C'est quand même hyper technique.
Quoi. C'est-à-dire qu'avec Camille, le principe, c'est de lancer des sacs sur cette planche et dans le trou. Et qu'avec Camille, on a, normalement, on pose la planche et on lance les sacs. Et en fait, ce qu'on a fait avec Camille, on n'a pas mis les planches. On lui a demandé de lancer les sacs. Et après, on a mis la planche où étaient les sacs. Et on lui a redonné les sacs en espérant qu'elle fasse une deuxième fois le même trou. Non, je plaisante. Donc, la planche, elle fait 1,20 m sur 60 cm. Elle a un trou de 15 cm sur la partie haute. Elle est légèrement orientée. Angle environ 25-26 degrés. C'est précis. On se met à 8,20 m de la planche. Et on lance des sacs. Qui
mais
font
8,20 m, c'est hyper loin en vrai. Je pense que vous ne visualisez pas, mais c'est hyper loin.
Alors, si je peux me permettre, 8,20 m, ça fait un objectif quand même.
8,23 m.
Pour avoir un métrage aussi pourri.
Non, c'est parce que c'est des pieds. Et donc, la traduction français des pieds, je crois que ça fait 16 pieds, je crois.
64, je crois.
Ah oui, parce que ça a été récupéré par les
voilà. Et puisque ça a été récupéré par les États-Unis. Donc, c'est exactement même 8,23 m, autant vous dire.
Précis.
Donc, on lance chacun son tour à 8,20 m. Quand la poche, le sac de 450 grammes exact, donc 430 et 450 grammes de maïs est sur la planche, ça fait un point. Quand il est dans le trou, ça fait trois points. Et franchement, à chaque fois que les gens viennent chez moi ou j'ai l'occasion de croiser des gens qui commencent à jouer à ça, c'est assez addictif et c'est vraiment marrant. On prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Il y avait un festival des jeux de lancer comme ça où il y avait le Molki, où il y avait le Palais Breton, où il y avait pas mal d'autres jeux comme ça. Il y avait un stand de cornhole et il se dit, et ça, c'est pas une légende, c'est vrai, que le soir, en fait, c'était sur le stand de cornhole que tout le monde se retrouvait et faisait des parties endiablées. Donc, c'est vraiment ça.
Il y a de la bière.
Et c'est peut-être parce qu'il y a de la bière aussi, ouais. Et que peut-être que c'est plus on boit de bière... moins
comme
on fait attention
pétanque,
à ce qu'on fait et meilleur on est.
Mais du coup, même aujourd'hui, les sacs, c'est toujours des sacs de maïs ou...
Alors, la plupart des sacs en France aujourd'hui sont des sacs de maïs. Mais on a maintenant des sacs qui sont… alors, ça devient très technique parce qu'aux États-Unis, le sac fait toujours les sacs font toujours la même dimension. Mais par contre, un sac qui va être très bombé, très rempli, va être plus facile à lancer, mais va nécessiter beaucoup de précision. Alors qu'un sac plus flasque sera plus difficile à lancer, mais si jamais il accroche le trou, il ira dans le trou. Alors en fait, dans ces sacs-là, il n'y a plus de maïs, mais il y a des résines, une combinaison de résines de densité différente pour pouvoir avoir… Et puis en France, par contre, étant donné qu'on est moins avancé dans le jeu, il y a encore beaucoup de sacs, beaucoup de maïs, mais ça fait partie du jeu puisque le maïs petit à petit éclate, laisse une poudre, une farine sur la planche qui permet de plus glisser. Mais l'inconvénient avec le maïs, c'est qu'au bout de quelques temps, 6 mois, si on joue souvent, la densité et le poids baissent et on a beaucoup de mal à jouer. Donc actuellement, se déroule. Je répondrai aux questions s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire. Enfin, non, il n'y a pas de questions.
J'en ai en tout cas. Mais vas-y, dis-moi.
Notre aventure continue. Notre charmant mec de l'ancienne fédération avait peu de likes sur son truc, ça bougeait pas beaucoup. Nous, on ouvre ça, on se retrouve avec plein de gens qui cliquent, plein de gens qui demandent des informations, des clubs, etc. Et parallèlement, je me dis, tiens, pour faire la promotion de ce jeu, eh bien, pourquoi pas faire une émission de personnes âgées. Donc, je me suis inscrit au casting des 12 têtes. Les 12 coups de midi, c'est l'émission qui passe le midi avec Jean-Luc Reichmann, qui est un animateur absolument génial, extrêmement empathique, sympathique, enfin vraiment bienveillant. Et étant donné que... tu es là, Jean-Luc ?
Jean-Luc.
Étant donné que pour passer dans l'émission, à chaque fois, ils veulent des clients, j'ai fait le client. Et le mec, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je lui dis, moi, je fais du cornhole. Du quoi ? Du cornhole. Et je lui explique, je lui raconte un peu, je lui raconte mon histoire qui est peut-être vraie, etc. Et je suis pris et je pars avec l'idée de surtout faire jouer Jean-Luc. On lui fabrique une planche aux couleurs de l'émission et j'espérais pouvoir montrer la planche, j'espérais pouvoir prononcer le mot cornhole. Et en fait, on a fait un carton, on a fait 4 minutes entre midi et 13h sur TF1, Jean-Luc qui joue au cornhole, tous les candidats qui jouent au cornhole. Ça a fait un carton d'enfer et ça nous a donné un vrai coup de pouce avec une planche. Ouais. J'en profite pour remercier Renaud de cornhole.fr, c'est lui qui avait fait la planche et elle était magnifique. Et d'ailleurs, Jean-Luc ne me l'a pas rendue.
C'est bon signe, ça veut dire qu'elle était vraiment bien.
Je crois que c'est un cadeau.
On sait ce qu'il va faire cet été, du coup.
Du cornhole, c'est sûr.
Et du coup, je me demandais, après toute cette réussite, etc., mais il y a combien de licenciés en France de cornhole, hein, pas par le patronat, bien sûr.
Alors, pour pouvoir faire des licenciés, il faut être une fédération sportive et donc agréé Jeunesse et Sport. Donc aujourd'hui, on est Fédération française de cornhole. Nos adhérents, ce sont des clubs. Et je pourrais parler de joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il doit y avoir 3000 planches, entre 3 et 5000 planches qui sont en circulation. Mais il doit y avoir des millions de boules de pétanque. Donc, des vrais joueurs qui pratiquent et qui veulent faire de la compétition, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment uniquement un sport de loisirs ou un jeu de loisirs qu'on fait en famille. Généralement, c'est souvent des étudiants qui ont été faire leurs études aux États-Unis qui ramènent ça et qui font jouer tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a créé la fédération, pour pouvoir structurer, pour pouvoir organiser des compétitions et essayer de développer le sport, parce que c'est aussi quand il y a des compétitions qu'on développe.
Si les grandes distributions sportives, pour en citer plusieurs, on va dire Decathlon, GoSport et autres, ont déjà proposé ce genre de produit, parce que dans le cas du Molky, par exemple, c'est lorsqu'ils se sont mis en vente que ça a explosé totalement de partout.
Alors, avec deux fournisseurs qui sont cornhole.fr et La12. -jeu.fr, je leur fais un peu de pub, hein, parce que ce sont des gens qui sont super et ils font vraiment pas fortune, ils ont des activités en dehors et c'est vraiment des passionnés. Notamment, je pense à Dominique de la 12 qui, en plus de ça, fait faire ses planches dans un ESAT, ses sacs dans un ESAT et qui a une vraie fibre sociale. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. On retrouve le cornhole aussi, j'en profite pour faire un petit aparté. Dans les écoles, c'est vachement bien parce que c'est un sport où on peut difficilement tricher. Donc, pour les gamins, c'est un sport d'honneur, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas tricher, donc on se comporte bien, on respecte les règles, c'est facile à compter. Donc c'est,
À la pétanque non plus, normalement, on ne peut pas tricher.
Ah si, si, on peut tricher à la pétanque. Et donc, je ne sais plus ce que je disais.
Les distributions.
Oui, la distribution. Donc, on sait que Decathlon est très intéressé par le cornhole, qui, a priori, ils vont lancer un projet qui devrait sortir dans les magasins au mois de juin.
On sait aussi, juste avant l'été, quoi.
Oui, on sait aussi qu'il y a deux. Alors, ça, c'est un scoop, parce que normalement, on ne doit pas le dire.
T'es encore à temps de faire demi-tour.
Il y a a priori deux magasins de la grande distribution sortiront des planches, puisque je sais qu'ils ont fait une grosse commande à un fabricant, et ce sera, je crois, Super U et Leclerc, ça sera dans les magasins.
Et vous l'aurez appris dans Pardon Maman, voilà.
Ouais, ça, vous le savez. Il y a donc les fabricants cornhole.fr et la 12, et puis aussi, il y a un autre fabricant, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est vous-même. Parce que c'est une planche de 1m20 par 60, avec un trou de 15 pouces, des sacs que votre grand-mère, votre mère, ou votre grand-père, ou votre père peut faire. Hein, j'ai failli ripper là. Et donc voilà, 450 grammes de maïs, vous en trouvez partout. Je tiens à dire à Hicham qui ne comprend pas tout le temps, c'est pas du maïs cuit, Hicham. Hein, c'est
parce que j'ai du pop-corn chez moi.
Voilà.
C'est 450 grammes de pop-corn, t'as fait ça.
Non, ouais. Et quand tu laveras tes sacs, tu mets pas sur 90 dans la machine à laver. Ça met une certaine tension.
En plus, les maïs, ça se digère pas.
Hicham, il prend cher sans aucune raison.
Et donc, sur le site de la fédération...
J'ai même pas encore commencé mon sujet, alors là...
Sur le site de la fédération, c'est www.ffch.fr. Vous avez toutes les infos et vous avez des tutos pour vous permettre de fabriquer les sacs et de fabriquer les planches vous-même. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, c'est un truc qu'on peut faire en famille avec des copains.
Non, ça fait du bricolage.
Ça fait du bricolage. Mais au niveau bricolage, c'est moins compliqué qu'une étagère.
C'est hyper simple à personnaliser, à peindre et tout, c'est cool.
Ouais, alors, ça, aux États-Unis, c'est ça qui m'a vachement surpris, c'est qu'il y a tous les gens qui jouent au cornhole. En fait, c'est non seulement ils font une planche, mais il n'y a aucune planche qui est d'une seule couleur. Ils essayent tous de personnaliser. Vous allez voir sur Internet, en tant qu'image ou en vidéo, vous avez des centaines de vidéos, des centaines d'images sur des planches de cornhole. Et il y a aussi un business aux États-Unis incroyable de sacs avec des densités différentes, des poids différents, des tissus différents. Et il y a, je crois qu'il doit, je sais pas, il doit y avoir au moins un millier de sacs différents possibles à acheter aux États-Unis. Donc, je reviens en France. Camille m'a promis une chose. Elle m'a dit, tu vas voir, les auditeurs de Pardon Maman sont hyper dynamiques. Et si tu leur parles de ta page Facebook Fédération Française de Cornhole, ils vont se jeter dessus pour les cliquer sur j'aime. Oui. Et montrer que les auditeurs de Pardon Maman sont reconnaissants pour le travail que vous fournissez depuis 7 ans et me remercient.
Alors, non, okay. Comment s'appelle ta page?
7 ans. Alors,
c'est la page.
Et là, ce soir, Axel, vous franchissez le million. Hein. Le million.
Fédération française, Fédération française de Cornhole.
Sur le live.
Regarde, Hicham est déjà en train de prévenir ses colocs d'aller liker tout de suite.
Et,
on va aller liker ça.
Et voilà, ça sera super sympa. Et parce que, et puis comme ça, vous saurez, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, notamment actuellement, il y a un tournoi européen.
Alors, vous allez c'est ce que tu disais à distance, du coup, c'est ça?
Comment faire un tournoi européen de cornhole alors qu'on est en affrontement à distance? Eh bien, on fait des performances seules. C'est-à-dire qu'on met une planche à 8. Oui, c'est pas cette performance-là dont je parle, Johan, s'il te plaît. C'est pas l'esprit. Donc, on met la planche à 8,20 m. Et on va lancer 10 séries de 4 sacs. Donc le total maxi est de 120. Et on marque le score et on fait ça en direct sur Facebook. Facebook est l'arbitre homologué puisque c'est en direct et qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, on a fait des 6 groupes, il y avait 140 partants. La grande fierté, c'est que les Français qui étaient pratiquement inexistant dans le cornhole
tout pété
l'année dernière. Aujourd'hui, sur ce tournoi-là, c'est la première nation.
Bravo.
S'il vous plaît.
Cocorico.
Pas mal.
45 joueurs français, alors que les Allemands, qui sont les leaders du cornhole en Europe, ne sont que 23 tout petits.
Eh bien.
Oh, les Allemands.
Ouais, c'est peut-être parce qu'ils sont déconfinés qu'ils ont autre chose à faire, mais je... peut-être que je comprends plus trop vite. Hein.
Absolument pas. Et donc actuellement, alors bon, effectivement, je pensais qu'on allait se prendre une tôle, mais finalement, on n'est pas trop mal. Et je dois remercier, j'espère qu'il écoute, Mathieu, David et Bruno, qui sont nos 3 Français performeurs et qui, sur ce tournoi européen, actuellement occupent la première, deuxième, troisième place au niveau
performance. Ah oui, donc la France est bien positionnée, bravo à eux. Ouais.
Ou par rapport au monde?
Vraiment, c'est un tournoi européen, donc il y a toutes les nationalités, il y a des Américains, etc., mais uniquement des gens qui vivent en Europe.
Okay.
D'accord.
Et voilà. Le top 3 est français.
Là, le top 3, pour l'instant, sur ce tournoi est français, c'est pas encore fini, donc on va attendre. Et puis, je vais finir un truc, parce que j'ai rendez-vous avec Camille cet été du 20 au 22 août.
Absolument.
Parce que nous organisons, avec Erwan, Mélanie, Pauline, Mathieu, Rémi et plein d'autres gens...
Un enregistrement de Pardon Maman au Château de Fribourg.
Non, mais ça, très bien. Je vous donne rendez-vous de faire un enregistrement de Pardon Maman au Cluny Master de Cornhole.
Les garçons, on se donne rendez-vous en Bourgogne cet été. Enfin, moi, j'ai déjà prévu d'y aller.
On attend 500 joueurs.
Il y aura de la bière et du cornhole, quoi.
Ah ben, écoute, ouais, ça me va très bien.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une équipe Pardon Maman dans l'équipe dans le tournoi entreprise?
Si on a le droit d'être mauvais, moi, je suis chaud.
Mais est-ce que Mathieu Rivaud n'a pas peur de perdre sa place par un Algérien?
Écoute, je sens que rien qu'à tes mots et la détermination qu'il y a dans ta voix,
le Fennec du cornhole, il rigole zéro.
Prends le papa.
Et là, je me posais une question, ça a l'air quand même assez physique, parce que si pour les compétitions il faut faire 120 lancers à 8 mètres, ça
doit tirer un petit peu dans le bras à fin, non? Bah, en Bourgogne, tu me diras.
Je sais pas comment te dire, tu lances pas avec vraiment le haut d'épaule, tu lances un peu en bas.
Ah, un peu en mode pétanque?
Non, alors le lancer, c'est en fait le bras est tendu, mais en fait il y a un mouvement du poignet, on lance un peu ça comme un frisbee. Qui fait tourner ce sac d'une manière horizontale et il se pose et il glisse jusqu'au trou. Ne pas le lancer
comme un kebab vide.
Oui, je Je préfère le frisbee, mais oui. Non, et je dois dire que c'est, on n'est pas obligé d'avoir une forme physique. Je connais des gens qui ont un peu d'embonpoint.
Mais tout de même beaucoup de charme.
Voilà, des gens, voilà. Donc moi, j'arrive à lancer, mais d'y lancer sans problème. Y a des gens qui ne comprennent jamais rien aux règles. Là, je pense à un certain Clément d'oublier. Enfin, vous pouvez, il est dans le bottin. Vous pouvez y aller.
ça tire à balles réelles. On a son adresse, on a tout ce qu'il faut.
Alors non, le harceler pas, mais en fait, voilà. C'est-à-dire que lui ne regarde jamais un tuto, jamais une règle, et me téléphone systématiquement en me disant
avoir
j'ai
honte.
Rien compris. Voilà. Donc voilà,
c'est
en fait,
quoi Clément, tu me fais honte, voilà.
Le cornhole, c'est pour tout le monde. Le cornhole, c'est vraiment pour tout le monde. Et Clément est un super sportif pourtant parce que il fait partie des Horsemen. J'en profite pour dire parce que c'est une compagnie qui a parcouru le monde, qui faisait tous les concours internationaux effectivement et qui sautait à pied tous les obstacles des chevaux. Et c'est des gens, c'est un mec qu'il faudra inviter avec le fondateur qui s'appelle Mathieu qui a un restaurant libanais qui est le meilleur libanais de Paris, qui s'appelle le Louvlan.
Bon placement.
Là, vous avez droit à toutes les meilleures
recommandations. Record du monde de placement de produits.
Je fais toutes les pubs. Moi.
C'est Napster.
D'ailleurs, il y a des promos à Monoprix.
Amixem n'a qu'à bien se tenir. On est sur un placement de produits par minute.
Alors, sauf que nous, on ne touche pas d'argent.
Moi non plus, je ne touche pas d'argent parce que je fais ça par amitié et c'est un vrai sport de potes. C'est un vrai sport de potes parce que c'est ce tournoi et en fait on est chacun chez soi, mais finalement on arrive à se retrouver pour jouer et pour faire nos performances ensemble. On a fait quelques vidéos extrêmement sympas où on faisait les commentateurs, on faisait les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet avec un copain qui a joué, qui s'est prêté au jeu, qui a été top. Et voilà, et c'est un vrai sport convivial. Il faut dire à vos auditeurs que normalement on aurait dû faire ça, cette émission là. En dehors du confinement et qu'on avait prévu d'amener une planche pour pouvoir jouer avant et après.
Trop bien.
Mais voilà. Et alors donc,
ce n'est que partie remise, Axel.
Absolument. Et je reviendrai un peu avant ou un peu après pour vous faire jouer ou vous viendrez boire un coup chez moi comme Camille. Hein,
C'est ce que j'ai fait.
On nous disait tout à l'heure qu'il y a des points de commun avec la pichenette. Alors, pas vraiment. La pichenette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue avec des couteaux et on doit jeter le couteau entre les jambes de la personne qui est en face. C'est un jeu de scout. Ouais, les scouts s'ennuient beaucoup.
Ah ouais quoi.
Oui. Ouais, c'est un jeu de scout.
Des scouts qui vont mourir.
Ah bah écoute, j'ai été scout et on n'a pas fait ça. Après, on était scout en Franche-Comté.
Vous jetiez de la concombre dans les cheveux. Ouais. Oui.
C'est ça, exactement. On bâtissait des maisons en
cocoyote.
On appelle ça le torchis
dans les autres régions de France, mais vous appelez ça la cocoyote.
Là, vous êtes en train de faire passer ma chronique pour quelque chose de pas sérieux du tout, alors que
tu
c'est hyper sérieux.
On a mis le logo en gros en plein écran.
Envie parce que, écoute...
Là, surtout, et alors, vraiment, allez sur YouTube, allez voir les vidéos de Cornhole. Il y en a des pages et des pages. Finalement, ce jeu est basique, et puis au bout d'un moment, on apprécie les coups. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo pour tout vous expliquer, les règles, etc., etc. Donc là, vous pouvez aussi la voir.
Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer comme ça, on la mettra en lien pour que les auditeurs auditrices puissent apprendre avec Axel.
Eh bien, mais avec un immense plaisir. Je vous envoie la vidéo dans la conversation sans aucune difficulté. Mais de toute façon, vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur la page que vous allez liker. C'est la page de la Fédération française de Cornhole.
J'avoue que pour faire ton jingle, Axel, et pas grand chose de ce sport pour être honnête. Du coup, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé Cornhole et je suis tombé sur plein de vidéos top 10 des tirs de l'année 2019, 2020. Et j'ai pas voulu me spoiler donc j'ai pas vraiment cliqué dessus. Mais ouais, il y en a plein en fait des vidéos comme ça.
Ouais, il y a des listes de lecture sur Spotify appelées Cornhole.
Carrément.
Là, ce qui m'a vachement surpris là-dessus, parce que donc, sur la liste, il y a du blues, il y a un peu de tout, il y a du ACDC, etc. Et je vous encourage à aller voir cette liste. Et au milieu de la liste, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a un instrumental de la danse des canards.
Bien, je vous propose.
Je
vous propose. Ouais.
Ok.
Je vous propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup, Axel. C'était ultra passionnant. Ça m'a trop donné envie d'essayer pour cet été.
Et ben avec grand plaisir.
Et, ouais, et j'ai déjà liké ta page, écoute.
Eh ben, c'est super gentil, et j'espère que les 2 millions d'auditeurs de Pardon Maman et vont 7, liker 7 la page millions, de la Fédération Française de Cornhole.
On n'est pas à Nouna.
Et nous aussi, on se double ouais. Tous les 3 mois à peu près.
Tu m'aurais menti, Camille ?
Ah, oui.
Plus que ça ?
On n'est pas des rigolos.
Du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, Ichouchou s'est craché dessus juste avant, mais j'espère que tu vas mieux. Est-ce que tu es prêt pour ton sujet ?
Va bien.
On lance le jingle
immédiatement. Tu peux le chercher.
Très très poétique, je ne connaissais pas toutes tes expressions.
Sans blague, tu sais pas ce que ça veut dire ?
Comment ça s'écrit ?
Regarde dans le dictionnaire !
J'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas.
On est complètement perdu !
Encore un super jingle.
Oh, c'est formidable.
Il était fou.
Ça fait plaisir. Alors du coup, donc moi je me suis
acheté un
livre qui s'appelle Tsundiko. Ben oui, c'est hallucinant. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais je l'ai. Du coup, donc j'ai ce petit livre là avec moi que j'ai acheté. En fait, c'est un dictionnaire donc des 200 mots que le français devrait emprunter aux autres langues. En gros, c'est des expressions ou un mot qui veut dire quelque chose de bien précis dans la langue en question. Mais qui les n'a Allemands, pas vraiment d'équivalent en français. Ouais. Il y en a plein, pas que les Allemands, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Parce que les Allemands, ils font des mots, enfin une phrase, ils t'en font un mot, quoi.
Ah oui,
c'est-à-dire que pour te donner le nom d'un objet, ils te disent la taille de l'objet, la couleur de l'objet, l'utilité de l'objet, et ça te fait un mot, quoi.
Au moins, t'as la référence, c'est pratique.
C'est ça.
J'avoue. Mais en gros, si je dois donner un exemple, c'est genre bromance. C'est une relation affectueuse et platonique entre deux hommes. En français, on n'a pas vraiment un mot qui décrit bromance exactement, sauf si je me trompe. Non ? Voilà, donc... je vais vous donner aussi un autre exemple. Enfin, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est... Je vais vous proposer... Ouais, non, mais déjà
ça que
c'est la
hesse,
là, d'enregistrer.
Ouais, c'est très bien. Donc,
en gros, je vais vous présenter un mot. Juan va faire passer la prononciation grâce à Dr Google pour pas que je le massacre. Et je vais vous proposer 4 propositions. Et vous allez devoir trouver la bonne réponse parmi ces 4. Dans le chat, vous pouvez aussi jouer. Et je ne sais pas si nos amis de Pim Pam Poum sont ici, mais j'ai préparé un petit PowerPoint pour ceux qui assistent
au
chat.
Très
comme
blanc.
Ça, vous aurez aussi... carrément.
C'est très blanc.
Écoute, c'est pas un écran.
La définition.
C'est blanc comme le vinaigre blanc, et voilà.
Alors, on va ajuster la caméra.
Ah bah non, c'est
mieux comme ça.
Et là.
Oh
là
là. Tout de suite le pénis.
Donc, je commence par le premier mot.
Qui est
je vois
tout de suite.
Oui, donc nous, on doit l'écouter.
Saudade. Saudade.
Sinon, je peux aussi massacrer le nom.
Vas-y, on peut essayer.
Alors, Saudade. C'est un mot qui nous vient de la langue portugaise.
Oui. Et je pense que si les auditeurs ont bien écouté Pardon Maman,
bien joué.
Ils ont déjà la réponse sur la définition de ce mot.
Oui, exactement, parce que je l'avais sorti pour l'épisode, pour la chronique de
César.
Ouais, quand tu étais revenu du Cap-Vert.
C'est ça. Donc, est-ce que saudade, c'est une boisson non alcoolisée mais qui a le goût d'alcool ? Saudade. Est-ce que c'est un jeune adolescent qui a l'allure d'un père ? Il est saudade. est-ce que c'est quand il ne reste plus qu'Ilias de vivant de l'équipe sur une game d'Apex ? Est-ce qu'on est saudade ?
j'essaie, je fais de mon mieux, ok.
Mais oui. Ou sinon, est-ce que c'est une expression qui regroupe à la fois la tristesse, la nostalgie, le regret, les remords, le manque, le besoin de retrouver quelque chose, un souvenir triste, etc., etc.
C'est quoi la première déjà ?
La
donc,
dernière.
C'est bien la réponse D. On est d'accord. Maintenant,
attends. Sérieuse, parce que dans le chat, on nous dit que c'est une sandale qui a été fabriquée en Arabie Saoudite. Et je me sentais obligé de t'interrompre pour dire ça.
Pas loin. Alors maintenant, voilà, trêve de galijade, on attaque avec les premiers mots. Le premier mot.
C'est parti.
Si tu fais une blague sur moi.
Je le remets une deuxième fois parce qu'Ilias y parle en même temps.
Bolilia, so.
Allez-y, vas-y. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Bouli Yasso. Ouais. Est-ce que c'est A, un projet qui échoue à cause d'un imprévu? Est-ce que c'est B, une expression pour désigner quelqu'un qui procrastine beaucoup? Est-ce que c'est une interjection qui exprime le dégoût après avoir mangé un fœtus d'œuf de poule? Ou est-ce que c'est avoir honte au point de se cacher dans les toilettes?
Un fœtus d'œuf de poule.
La dernière.
C'est tellement spécifique.
Mais parce que c'est un mets philippin aux Philippines. Ben, ils mangent des fœtus d'œuf de poule et ils chament la fête.
Oh non, j'ai croqué dans le bec, tu vois, de mon fœtus d'œuf de poule.
Ah, bon, Liliasso.
Ah, tu me dégoûtes.
Attends, c'était quoi le premier?
Alors, donc, je répète. Projet qui échoue à cause d'un imprévu. Expression pour désigner quelqu'un qui procrastine beaucoup, interjection qui exprime le dégoût après avoir mangé un fœtus d'œuf de poule ou avoir la honte au point de
moi
se cacher dans les
dans
toilettes.
Dans le chat, on a 2 B, 1 A.
Camille ?
Ah non, moi je dis les toilettes, moi je trouve ça rigolo. Ouais, là, pour aller se cacher dans les WC.
Axel ?
Ben moi je suis Camille. Enfin, pas dans les toilettes, mais.
Oh non ! On avait passé une heure sans dérapage. Non, et le joueur français maintenant aussi. Donc on disait, on est 3 réponses D.
Moi j'étais sur la C, sur le fœtus de poule.
Ok.
Et ben c'est Lio Canlier qui a raison. Et c'est un projet qui échoue à cause d'un imprévu. Voilà.
Ok. Écoute, c'est le shit happens quoi. Ou l'Iasso.
C'est un peu ça.
L'Iasso.
Allez, deuxième.
Je le remets une deuxième fois au cas où.
Doki Doki.
Donc, Doki Doki. Est-ce que c'est un bracelet en poil de panda qu'on offre généralement au baby shower pour porter chance lors de l'accouchement? Est-ce que c'est l'accélération des battements de cœur provoqués par la peur ou la surprise? Est-ce que c'est des taches de rousseur causées par de fortes chaleurs ou le regret de voir le temps passer?
C'est la B, capitaine.
Donc il y en a un B.
Parce que c'est...
Je sais pas.
Une D.
Moi, je dis la B.
Une D, le regret. D'accord, donc...
La B, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'onomatopées japonaises qui sont très différentes des nôtres. Genre une explosion, ça va être Dokkan ou des trucs comme ça. Et Doki Doki, je crois que c'est
le petit battement de cœur. Le genre, en fait, Grian, Anoline, Olivier. On est sur beaucoup de dés.
Mais les
la réponse
de
D.
De D comme Daniel. Mais c'est bien la réponse B, comme tu disais, Elias. C'est des accélérations de battement de cœur.
Pour quiconque a déjà vu
Doki Doki, c'est le nom d'un manga, il me semble. J'ai une très petite culture à ce niveau-là, mais
potentiellement,
je vais demander à Google.
Très manga,
On dit que Hicham,
tu sais que Hicham, ça commence à se voir que tu as donné toutes les réponses à Elias avant de commencer.
Hein, mais c'est le chef.
Énorme faillot.
Je suis malin. Voilà.
Non, mais juste pour finir, du coup, nous, avant de rentrer au Splendid, avant de passer sur scène au Splendid, on ressentait le Doki Doki.
Je me permets de mettre en plein écran pour que tout le monde le voit bien. C'est en effet un manga qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Voilà.
Super.
Je ne sais pas.
C'est passionnant.
Sachant que ce sont 4 écolières en jeu.
C'est
ouais,
bien moi.
Elles ont pas l'air ultra majeures. Donc
c'est ce que j'appelle un dimanche.
Et de 2 dérapages.
Allez, nous sommes dans Fast and Furious 12. Très bien.
Allez, on passe au mot d'après.
Oui, pardon. Excuse-moi, j'étais en train de boire.
T'es cherché ça où?
Attention, dans 3, 2, 1, jungle.
C'est imprononçable.
Oui. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est Donald Kaksas, un truc comme ça. Donald Kaksas.
Je sens deviner déjà.
Un canard qui a attrapé un truc avec son bec et on veut qu'il lâche.
Alors, il y a un truc sur Trump, il y a un truc sur Donald Duck.
Ok. Pour l'instant, tu as raison.
Tu peux le cacher ça.
Ensuite, si tu es toujours dans la même famille, tu vas nous parler d'un magret.
Un magret de Donald.
Un magret. Non.
Ben oui.
Un magret de canard.
Non.
Non. Bon, ok.
Mais je te propose que je.
Deux.
Voilà, que je fasse mon sujet. Donc, est-ce que c'est la réponse A, expression qui veut littéralement dire Donald ment moins que toi, en référence à l'ancien président? Est-ce que c'est une expression qui veut littéralement dire « tu es aussi ridicule qu'un Donald qui roule en Dacia » Est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est le Donald Tusking, littéralement, qui est le fait de travailler autant que Donald Tusk, l'ancien président du conseiller européen? Ou est-ce que c'est le Donald Ducking, le fait d'être chez soi, simplement habillé d'une chemise,
là, le Kegaler? C'est beaucoup trop drôle, je suis sûr que c'est ça.
C'est.
Bah, ce qui me fait beaucoup rire,
moi,
c'est que là,
c'est la
suite...
D, donc...
Non, Donald, oui. Il a une chemise bleue, c'est ça?
Ouais.
Alors pour ceux qui...
ne te
Axel
lève pas.
Axel porte une chemise bleue. On ne sait pas s'il fait du Donald caca ou pas.
J'espère qu'Axel n'est pas en train de faire du Donald Ducking.
Ouais, je suis pas bien là.
Non, moi je suis sûr que c'est ça. C'est le sgagalère, c'est certain.
Donc il y a deux sgagalères.
Un C.
Qui c'est qui n'a pas répondu?
Camille.
Si, moi j'ai dit le sgagalère, moi.
Moi je dis la C.
Ok. Et dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de D, un A.
Ça, c'est des espoirs.
Et ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être chez soi, simplement habillé d'une chemise sans pantalon ni sous-vêtements.
Allez.
Et d'ailleurs, je vais me lever.
Non. Hop, ban Twitch permanent.
Du coup, bon, on enchaîne. Hein.
Allez, parce qu'il y a
Oui.
De questions.
Allez,
c'est parti.
Le mode...
Il va falloir qu'on accélère.
Enrentado. Assez simple, celui-là, je peux le prononcer. C'est celui qui désire être seul dans un endroit où il y a du monde. Est-ce que c'est enchanté, mais qui se dit seulement pour les animaux de compagnie? Est-ce que c'est bonjour, un bonjour qui regroupe un bonjour général? Ou est-ce que c'est celui qui fait une action généreuse?
Moi, c'est le bonjour pour les animaux de compagnie. Enfin, le enchanté pour les animaux de compagnie.
Ouais, moi j'aime bien aussi.
Et si c'est ça, je vais le dire tous les jours à mon chat.
Encantado,
alligato.
Encantado, Kiki.
Moi, je vais dire l'action généreuse.
L'action généreuse, Juan.
C'est du père.
Du père.
C'est du père, c'est encantado en espagnol. Bah, après, je ne sais pas s'il y a un autre...
Ceux qui ne parlent pas l'occitan,
c'est
ça veut dire quoi, du père?
De mon espagnol à moi que je parle. Mais...
Ah, bah non. Eh ben non, c'est la réponse A, c'est celui qui désire être seul dans un endroit où il y a du monde.
Okay.
Donc ce mot vient de gente, donc les gens. Et au Mexique, me enrento, c'est une expression que l'on entend fréquemment au Mexique, où beaucoup de gens souffrent du bruit et de l'agitation, tout simplement.
Mmh. Ok.
Voilà. Je me demande si en Inde, ils ont un mot comme ça, avec la densité de population qu'il peut y avoir dans certaines villes d'Inde, ils ont peut-être un équivalent aussi. Non, mais c'est vrai.
Sûrement. Je sais qu'il y a plusieurs mots de...
Peut-être pour l'inverse, pour quand ils sont tranquilles.
Ah, peut-être, c'est possible.
Aussi.
Après, pour avoir discuté avec Maria, qui est notre chère aventurière, que vous connaissez, Maria La Rouge, qui est allée en Inde, qui disait entre la ville et la campagne, ça peut être très différent. Donc. Mais bon, je n'interromps pas ton sujet, mon cher Ishouchou.
Non, c'est pas comme si j'avais l'habitude, mais c'est pas grave. on enchaîne du coup avec le mot suivant.
Absolument. Je le lance dans maintenant.
Erbsenzähler.
Voilà.
Mais continue vraiment à parler à chaque fois que je lance un mot.
Erbsenzähler.
C'est bon.
Erbsenzähler, à peu près.
Alors là, on va pas bien sur ta télé. Hein.
Ah, alors attends.
Oui, donc,
il est trop long.
Non, ouais. Comme ça. Ouais, non, c'est un petit peu mieux.
Il y a la première fois qu'on me dit ça, n'est-ce pas?
c'est bon.
Erbsenzähler. Parce que c'est supposé aussi être un... Un podcast, parce que voilà.
Un podcast,
c'est vrai. On note l'effort visuel.
Bah oui, j'ai essayé. Du coup, donc, est-ce que c'est une personne tatillonne qui souhaite tout contrôler? Est-ce que c'est une personne radine? Est-ce que c'est le vrai mot pour désigner la mode des sandales chaussettes? Ou est-ce que c'est une recette à base d'herbes et de sel?
Putain, moi, je parle pas du tout allemand. J'aurais envie de dire la C. J'aurais envie de dire que c'est claquettes chaussettes.
Ouais, parce que moi, je, ayant fait quelques saisons, l'été, les sandales chaussettes, c'était les Allemands. Et à chaque fois, quand on disait les sandales chaussettes arrivent, c'était pour dire les Allemands arrivent.
Enfin, pour la défense et des Allemands, c'est la mode en France aussi maintenant.
Ils ont, ouais.
Skate aussi.
Et on peut quand même dire que c'est quand même un truc extrêmement élégant.
Oui.
La sandale chaussette.
Ceci dit, moi, je préfère sandales. je préfère sandales chaussettes que pieds nus dans les baskets.
Moi, je préfère claquettes chaussettes. Au niveau du verbe, ça sonne mieux. Claquettes chaussettes.
C'est vrai. Moi, je dis la B.
D'accord. Donc, une personne radine.
Ouais.
Moi, je suis sur claquettes chaussettes, vraiment. Ouais,
ouais okay.
Moi aussi, claquettes chaussettes. Clairement.
Le chat, c'est majoritairement pour la B.
Ça, ouais. C'est une blague d'Ichouchou, claquettes chaussettes, c'est sûr.
Exactement. Et, c'est ni la C, ni la B, ni la D. C'est une personne tatillonne qui souhaite tout contrôler.
Ah. Donc ce monsieur prénommé Adolphe était un petit peu Erpenthaler.
Un tout petit peu. Et pour la traduction littérale de ce fameux, enfin de ce beau mot, c'est celui qui compte les petits pois.
Mignon.
D'accord.
Okay. Moi, je suis un peu Erpenthaler. Perso.
Et d'accord.
C'est le pendant de nous de notre couple les cheveux en quatre.
Eh oui, c'est ça.
Ah ouais. Ou ceux qui font des choses désavouées, enfin des choses pas assumables à des mouches.
Il y a un commentaire dans le chat qui me fait assez rire, c'est il n'y a pas assez de voyelles dans ce mot, donc on va dire A juste pour en rajouter.
Ça pique à pas mal de mots allemands, je pense. Yeah.
Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça se prononce, enfin, ça s'écrit E-R-B-S-E-N-Z-A tréma H-L-E-R. Ça en fait beaucoup. Il y a des mots encore plus longs tout à l'heure.
Tu avais une variante de ce mot dans tes jingles. Est-ce que tu souhaites qu'elle passe?
C'était le même mot, mais prononcé doucement, si tu veux, vas-y.
Allez.
Erbsenzela.
Voilà.
Voilà, tout simplement.
Erbsenzela.
Exactement. Ouais. Bon, allez, on passe au mot d'après.
Allez, 1, 2, 3.
Tout simplement.
Je te dis.
Est-ce que c'est imaginer sans complexe qu'un matin je changeais de sexe? Est-ce que c'est un beau parleur? Oui, je cite du Sardou, t'as un problème. Est-ce que c'est... Oui. L'espace situé à l'intérieur des deux bras, ou est-ce que c'est un objet qui n'a pas d'utilité précise, mais qui peut être vendu à Ikea?
Ah non, le pli du coup, tu veux dire le poplité?
Non, moi je sais, mais du coup, je vais peut-être laisser tout le monde répondre.
Ouais, laisse tout le monde répondre. Donc c'est un mot suédois.
Parce que j'ai commencé à apprendre le suédois pour info.
Ok.
Je vais dire c'est.
Ok, donc l'espace situé à l'intérieur des deux bras.
Moi, je vais dire la même chose d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu appelles l'intérieur des deux bras, genre? Là
Oui.
Ok, donc quand je fais ça, ok, c'est pas le pli du coude là.
Non, c'est là.
Non, moi je dirais, c'est quoi la D déjà?
La D, c'est un objet qui n'a pas d'utilité précise, mais qui peut être vendu à Ikea.
La B.
Un beau parleur, ok.
Ouais, la D.
Juan.
Je sais, donc est-ce que tu veux que je te donne la réponse? Je crois que dans ta définition c'est la C, mais en gros c'est ce qu'on appelle le bosom en anglais, ou c'est la poitrine en fait. Donc j'imagine que c'est ce que tu as marqué comme l'espace étant entre les bras.
Exactement.
Les tchouches.
En fait, à l'époque c'était utilisé comme unité de mesure. Donc le fan en fait c'est une brasse. Mais aussi aujourd'hui en Suède, c'est aussi utilisé pour désigner la poitrine ou le torse. Et l'interjection fan, donc fan, c'est-à-dire dans mes bras, ou viens me faire un câlin.
Viens te coller à mes tchouches.
Exactement.
Pardon, Axel, je me suis permis de couper ton micro pendant que tu. Parce que ça frottait, désolé.
Pendant que tu
je n'ai pas fini, hein. Non, pendant que tu te tournais.
Ah,
est-ce que je faisais une rotation? Oui. Pardon.
Non, mais tu dis pas de
ensuite.
Mais ok, donc je comprends mieux le sens de viens dans mes bras.
Voilà.
Sinon, genre l'espace entre mes bras, je suis genre, ouais, ça peut être très grand si j'ai
carte. Ouais, c'est vrai que ta définition était assez large, ouais.
Ouais. C'est pas de ma faute.
Un peu quand même.
Titre un peu, même.
Allez, mot suivant. On tourne en arrière.
Oulala.
Frühschoppen.
C'est bon.
Frühschoppen.
Moi je dirais un maraîcher.
Non, pas du tout.
Ouais, franchement, j'aurais trop dû maraîcher aussi.
Est-ce que c'est faire les magasins dès l'ouverture, qui viendrait du mix de l'anglais shop et freu en allemand, je veux dire de bonne humeur? Est-ce que c'est appuyer en continu sur la sonnette de l'entrée jusqu'à ce qu'on ouvre la porte? Par exemple, quand tu es à l'hôtel en Allemagne, tu peux demander à l'accueil un Frühschoppen pour être sûr que tu te réveilles, que tu rates pas ton rendez-vous le matin.
C'est tellement spécifique.
Est-ce que c'est la réponse C, se faire réveiller par une pluie torrentielle de bon matin, comme à Koh-Lanta, qui commence dans pas très très longtemps d'ailleurs, ou est-ce que c'est la réponse D, boire des boissons alcoolisées dès le matin avec des copains?
Alors moi j'aurais dit la B, mais dans le chat ça parlait de pécho au petit déjeuner, où il y a une histoire de bière là-dedans, machin.
Full Chopin, acheter tout le contenu de magasin.
Moi je dirais le shopping dès le matin.
Ouais, moi aussi.
Ouais, le shopping, non, moi j'aurais dit picoler dès le matin.
D'accord, c'est un concept.
Non, Axel, non, le truc de l'hôtel là.
Truc de l'hôtel.
C'est tellement spécifique, ça peut être ça, ouais. La Guinness du réveil, bah les vrais savent. Hein. Pardon, je parlais du chat, mais.
Et bah en fait, c'est un truc que les Autrichiens et les Allemands ont comme habitude, apparemment, c'est de se retrouver dans un pub le dimanche matin.
Ah!
Donc,
okay,
c'est la réponse D. Donc, okay, c'est vraiment le fameux apéro du matin.
Hop, petite danse de la joie.
Mais pourquoi pas, hein, écoutez.
Chacun sa culture, j'ai envie de dire. Nous, on faisait beaucoup moins ça en Arabie Saoudite, mais ça, c'est un autre sujet.
Le petit Sprite du matin.
Le Saudi Champagne. Allez.
Suivant.
Quelques trois. Dans le Japon. Une deuxième fois, Juan ?
C'est bon.
Non, pas une deuxième
Allez,
fois.
Allez, je remets une troisième
fois. Fubutsushi.
Allez. Donc, Fubutsushi. Est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière ? Est-ce que c'est le fait de trembler de peur après un séisme ? Ou un overdose ou un coup de barre après avoir trop mangé ? Ou c'est la frustration de devoir attendre que la soupe mise au refroidisse avant de pouvoir manger les sushis.
C'est si spécifique. Demande à Elias, c'est un weeb.
La soupe mise au direct.
C'est la quoi, tu dis ?
La soupe mise au direct.
La soupe.
Non.
Mais si, tu vois.
Les ramen,
sushi, il y a.
Ça peut pas être ça.
Non, les ramen, ils les bouffent brûlantes et ils font du bruit dans la bouche pour les rafraîchir pendant qu'ils bouffent. Donc, si la soupe miso, elle était chaude, eh ben, ils la boiraient chaude quand même, quoi. Non.
Excuse-moi.
J'essaie de reconnaître des parties, mais je crois que je ne reconnais rien, donc je vais pas faire le malin. Et non, je ne saurais dire.
Tu peux nous répéter les quatre ?
Alors, est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière ? Ou le fait de trembler de peur après un séisme, est-ce que c'est l'overdose ou un coup de barre après avoir trop mangé, ou la frustration de devoir attendre que la soupe miso refroidisse.
Moi, je dirais que c'est le coup de barre après avoir trop mangé. C'est quand t'es plein, quoi.
T'es fou de sushi.
Ah, je sais pas, c'est con, mais dans la consonance, ça fait vraiment un truc...
Non. Non, il a pas osé.
Des blancs, quoi.
Qui n'a pas osé, quoi.
La B.
Parce qu'il y a sushi. Parce qu'il y a sushi dedans, t'as fait une blague sur notre manger, non ?
Non, pas du tout, c'est une des propositions. Non. Mais moi, je suis sûr que c'est ça, ça fait un peu mot de j'ai trop bouffé, quoi.
Bah, je pensais aussi, mais quand j'ai vu Hicham sourire, j'étais genre, oh non, il a fait une blague. Mais pardon, ouais, bah, moi, je dis ça aussi.
C'est un peu le principe des quiz.
Je suis un mec jovial. Dans le chat, on a quelqu'un, enfin Marguerite Fourbe, qui dit Tsuchi, c'est la terre, donc on va dire B, le séisme. Et Olivier qui dit A. Les autres ressemblent trop à des jeux de mots.
Et bah, tu te connais un petit peu.
Ouais, tu me connais même très bien, Olivier. Je ne sais pas qui tu es. Mais c'est bien ça, c'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière. Donc, par exemple, les bourgeons sur l'arbre, ça suggère le printemps.
C'est du faux-bout sushi.
Le sapin, c'est l'hiver. Les feuilles qui tombent, c'est l'automne. Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
D'accord.
Bah, du coup, par aussi Camille qui nous avait quitté pendant quelques instants, je recommence. Donc, Gatara, est-ce que c'est un gâteau que votre mamie fait le dimanche ? Est-ce que c'est une vieille dame solitaire et casanière qui vit entourée de ses chats ? Est-ce que c'est une insulte destinée à une personne pourrie gâtée ? Ou est-ce que c'est le mauvais œil musical ?
Moi, je pense qu'on est sur la vieille dame.
Ouais, vieille moi, dame je pense qu'on est sur la vieille dame aussi.
Le mauvais œil musical,
le B, ouais.
Ça me tenterait.
Après,
mais je sais pas ce que je pense pas que ça existe. Donc je vais partir sur la vieille dame.
Ah, mais c'est comme le break a leg en anglais ou.
Ah, ouais. Oui.
J'ai la B. Et Axel, t'as une idée ?
Moi, je vais dire aussi la vieille dame.
La vieille dame. Eh ben, vous avez tout à fait raison.
Ah bah bravo.
Oui.
Une vieille dame solitaire.
Ah, ED, mais je comprends pas, disait Olivier. Bah c'est comme quand tu dis merde avant d'aller au théâtre ou.
Ouais.
Tu vois, un truc pour te souhaiter bonne chance, mais sans te souhaiter bonne chance quoi.
Bon, j'essaye de faire des jeux de mots avec guitare, gata.
Non, mais t'es incroyable.
Bah ouais, je me suis dit.
T'es le meilleur d'entre nous.
Alors, c'est d'espagnol, pas de l'italien, mais c'est gâteau pour le chat. Donc, je me suis dit, s'il y avait un truc en relation gâteau, gatara. Ah,
mais peut-être. C'est ça, ouais.
Et du coup, on finit avec notre dernier mot qui est en néerlandais.
Gezelligheid.
Merci, Juan.
On dirait de l'hébreu.
Oui, c'est exactement ce que je me disais.
Gezelligheid. J'ai perdu ma tongue, mais c'est pas grave.
Bah oui, bah, je pense que oui.
Les aventures.
Gezelligheid.
Oui, c'est fou. Donc, Gezelligheid, est-ce que c'est péter de joie, mais genre littéralement, péter de joie? Est-ce que c'est être sourd de joie? Ah bah oui, écoute. Est-ce que c'est être sourd de joie, comme à la sortie d'un concert, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le monde d'avant, quand c'était possible? Est-ce que c'est la
sourd d'avoir pété?
Est-ce que c'est la joie qu'on peut avoir quand on se retrouve avec des gens qu'on aime? Ou est-ce que c'est avoir une joie communicative et rayonnante, en mode tu es Gezelligheid, ma chérie?
Non, ça sort un truc du bled, ça. Non, moi je dirais la joie de retrouver ses amis, parce que j'ai envie d'un truc mignon pour finir.
Ouais, moi je vais te suivre.
Je pense que c'est ça aussi.
Moi aussi.
Eh bah écoutez, quand on va se retrouver, on sera tous Gezelligheid.
Oh là là.
J'ai aussi.
Je reconnais là ton côté.
Avec une touche mignon.
Oh, voilà. C'est adorable. C'est très mignon. Réponse E, perdre une seule tongue.
Et ben voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, laissez-moi savoir parce que j'ai encore quasiment la moitié.
Ça nous a plu. Enfin, moi, ça m'a plu.
Oui. Ben, c'est cool.
C'est un moment délicieux.
Super.
Bien, merci beaucoup. Ben, ceci voilà, c'était un immense plaisir. C'était très, très chouette. Moi, j'aime beaucoup les jeux, donc je suis content qu'on en fasse. Il y a une grosse latence dans le chat, c'est la vidéo, c'est moi. Oui, il y a une latence.
Alors, moi, je ne l'ai pas, donc peut-être que c'est donc, vous qui avez des problèmes oculaires. Voilà.
Ça, c'était moi, il y a 2 semaines.
Mais c'est normal. Et du coup, oui, c'est Twitch qui fait de la latence. Mais je l'ai dit juste pour que tu puisses voir le décalage. Donc oui, c'était un énorme plaisir de vous retrouver, auditeur, pour retrouver un viteros, un viteris, les autres bolos, tout le monde, quoi. Non, c'était très cool. Cet épisode touche à sa fin, malheureusement.
Ouais, il faut.
Et oui.
Mais c'était très chouette, moi je suis très content. J'espère que vous avez passé un bon moment. Axel, est-ce que tu as été bien reçu?
Ouais, non, c'était vraiment sympa. Vraiment dommage qu'on ne soit pas en contact proche pour pouvoir partager ce moment-là. C'est vrai que la visio comme ça laisse un peu de distance. Alors effectivement, on arrive à moins rebondir sur ce que les gens disent, etc. Mais vous arrivez toujours, comme dans chacune de vos émissions, à apporter de la convivialité et de l'humour et de l'intelligence. Et...
Ouais.
Enfin, voilà,
quoi.
Non, c'était vraiment sympa. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de pouvoir faire ça de visio avec peut-être du cornhole encore ou une autre histoire à vous raconter qui n'existe pas.
Ah bah oui, un petit cornhole. Ouais. Mais moi, je vais bricoler. Ouais. Je vais bricoler un cornhole, pardon, maman, c'est sûr.
Tuto,
oui.
Tuto,
oui.
Fédération française de cornhole. Vous avez tous les de toute façon, même sur YouTube, vous avez tous les tutos pour fabriquer vous-même votre planche. C'est relativement simple. Il vous faut juste un peu de patience, donc n'hésitez pas, c'est un vrai sport sympa.
Attention, quand vous tapez cornhole sur Google, la faute de frappe est facile. Enchaînons.
Ok. Et ouais, donc on mettra tous les liens de toutes ces magnifiques vidéos, de la Fédération française de cornhole, des magasins préférés d'Axel, et du meilleur restaurant libanais, enfin, on mettra tout ça petit à petit.
Oui.
Mais plutôt
un bisou à Mathieu.
Plutôt principalement le cornhole, mais si tu as d'autres adresses à passer, ma foi, il faut soutenir nos chers restaurateurs qui sont dans la galère, les pauvres. Donc, soutenez-vous. Ouais. Puis nous, en tout cas, ça a été un gros, gros plaisir de te recevoir. Ouais. Vous savez, les nous, on a mis tout le temps, mais c'est
vraiment
un gros, gros plaisir.
les codes promo, tout ça. Oui, bah...
Ouais, donc gros plaisir de vous retrouver. Nous, on va essayer déjà de ne pas être malade, ça serait bien. Et puis, on va essayer ce type de format régulièrement parce que c'est l'occasion de boire un verre ensemble et de rappeler des choses. Si on a d'autres idées potentiellement testées, peut-être faire des soirées jeux quiz avec Ichouchou ou des choses comme ça parce que les semaines et les soirées sont longues, donc il faut bien s'occuper. Et personnellement, vu que je suis très content de consommer du contenu d'autres personnes, je me suis dit que je serais bien content d'en produire aussi pour d'autres, si ça peut vous intéresser. Écoutons-la. Je dirais, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. On se retrouve très vite et puis passez une très bonne soirée. Ça marche ?
À très bientôt.
À tout bien.
Bisous.
Qu'est-ce que c'est, ce machin ?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries !
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Ce qu'il dit !
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire !
Oui, je trouve ça vulgaire.